10h, 11h, les grandes voix d'Europe 1.
Et si l'on en croit donc ce dernier sondage IFOP publié cette semaine par nos confrères du Parisien, Emmanuel Macron a retrouvé son niveau de popularité d'il y a 3 ans. 50% d'opinion favorable pour le chef de l'État, c'est ce que je disais. Et ce, malgré la crise, malgré la fatigue des Français, les perspectives sombres sur l'économie française. Michel Cotta, c'est à vous que je vais poser la première question. D'abord, est-ce que c'est une surprise pour vous, ce sondage ?
Pas vraiment, parce que on s'aperçoit que ce dont il bénéficie aujourd'hui, c'est au fond du côté gaulois, si j'ose dire, d'avoir dit au conseil scientifique, ça va, vous dites ce que vous voulez, vous annoncez ce que vous voulez, vous faites les courbes que vous voulez, mais c'est le politique qui choisit. Et d'un seul coup, comme ça a marché, c'est bien le problème, comme ça a marché pendant ces 2 mois, tout le monde y voit d'abord une autorité pour une fois, enfin une autorité bien affirmée contre les médecins. Tout le monde trouve que on leur promettait une réclusion, là maintenant c'est une demi-réclusion. Donc il bénéficie sûrement de la façon dont il a géré cette phase du Covid. Et pourtant, ces critiques ne manquent pas.
Hein, oui, bien sûr, on va en parler.
Y compris sur les vaccins, etc.
On va en parler.
Mais je pense quand même que c'est très fragile. Je veux dire, imaginez que brutalement, la courbe augmente avec les patients, les patients anglais, avec les variants anglais. Là, pour le coup, au contraire, ils se verraient immédiatement reprocher, évidemment, d'avoir triomphé trop tôt de la maladie. D'où, je trouve, la prudence actuelle.
Non, on sait depuis hier, d'ailleurs, que le président de la République se laisse entre 8 et 10 jours pour décider d'éventuelles autres mesures qui pourraient être restrictives. Gérard Carrérou, il a compris, Emmanuel Macron, qu'il ne fallait pas rajouter de la colère, en quelque sorte, alors que les Français s'agacent. Hein, on vient d'en parler sur les lenteurs de la vaccination.
Oui, je crois que le sondage, il l'a bien mérité. Vous savez, il y a les sondages, c'est des photos, on le dit assez souvent, tout le temps même. C'est des photos de l'opinion à un certain moment. Bon, il est clair qu'il a fait, il y a 3 semaines, le bon choix, comme dirait quelqu'un qui est décédé récemment. Le bon choix, c'est-à-dire, soit parce qu'il s'est basé sur des informations de bonne qualité, des services et des médecins, etc. Soit parce qu'il a fait un pari intellectuel de dire « il y en a marre maintenant, il faut que les Français soient soulagés, il faut rouvrir un peu quelque part la société ». En tout cas, ça a été cautionné, le virus a suivi la recommandation de Macron. C'est-à-dire que le virus est resté étal, à peu près, depuis 3 semaines, et du coup, les Français se sont sentis soulagés. Ils n'ont pas encore recommencé à aller au ciné ou au théâtre, mais ils se sentent soulagés, un peu. Et comme l'a dit Michel, ça peut être durable si ça se confirme dans les prochaines semaines, ou ça peut être une embellie éphémère si effectivement il y a une explosion la semaine prochaine.
Catherine Ney.
Oui, puis il est d'autant plus populaire que sur ce terrain-là, le président vit en cohabitation, non pas avec l'opposition, mais avec la Covid. Et sur ce terrain-là, l'opposition, justement, n'a rien à dire parce qu'elle ne ferait pas d'autre choix que lui. Et s'il en avait pris un autre, là, elle se serait rebellée. Donc, il est tranquille. Sur ce terrain-là, il n'est absolument pas contesté. Alors, et puis en plus, les Français ont eu l'impression qu'ils avaient tout de même un peu de liberté, même s'ils sont très contraints, et l'économie n'est pas complètement bloquée.
Pas complètement, effectivement. Voilà. Et pourtant, comme si la gestion de cette crise sanitaire ne suffisait pas, voilà que l'exécutif, on l'a quand même vu cette semaine, s'offre quelques polémiques, on va dire, hein, qui fragilisent un peu l'édifice. Par exemple, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a soulevé une véritable levée de bouclier cette semaine en demandant une enquête sur l'influence de l'islamo-gauchisme au sein de l'université.
Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable. L'université fait partie de la société. Alors, ce que l'on observe dans les universités, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent utiliser leurs titres et l'aura qu'ils ont pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes, en regardant toujours tout par le prisme de leur volonté de diviser, de fracturer, de désigner l'ennemi, etc.
Frédéric Vidal, le week-end dernier, chez nos confrères de CNews avec Jean-Pierre Elkabbach. De quoi parle-t-on, Charles Villeneuve, de cet islamo-gauchisme, fantasme ou réalité au sein des universités ?
Réalité.
Oui.
Réalité. Bien évidemment, j'ai parlé avec 2 enseignants qui font partie d'ailleurs de l'appel des 100. Vous savez qu'il y a 100 professeurs, et pas seulement des professeurs d'ailleurs. et aussi des élèves et qui ont signé cet appel des 100. Et c'est vrai que l'université est devenue aujourd'hui, sur beaucoup de plans, dans plusieurs universités, peut-être pas toutes les universités, par exemple la littérature française, l'histoire napoléonienne, qui a été remplacée par des études et des recherches sur le débat postcolonial, la sociologie de l'exclusion raciale, les théories du genre, où il n'y a plus de sexe, plus de masculin ni de féminin, le néo-féminisme, etc. Ce qu'elle a, si vous voulez, raté, où elle est hors sol, c'est qu'elle a demandé au CNRS de contrôler, justement, cet islamo-gauchisme.
Ouais. Et ce qui n'est pas sa vocation, évidemment.
Qui n'est pas non seulement sa vocation, mais c'est vrai que l'université, d'ailleurs le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'a dit, le président de la République tient à ce que l'université soit ce qu'elle est, c'est-à-dire complètement libre. Mm-hmm. Mais elle aurait pu faire ce que Jean-Michel Blanquer a fait, notamment quand il est arrivé à l'éducation nationale, il a changé complètement le conseil des programmes, le conseil national des programmes, et il a remis de la chronologie dans la littérature, dans l'histoire, etc. Elle peut peser sur ce qu'on appelle la création de postes fléchés. Et elle peut évidemment peser aussi sur les thèmes qui sont adoptés par rapport à ces créations de postes qui sont annuelles.
Donc on va poursuivre cette discussion, on va marquer une première pause, hein, si vous le voulez bien, les grandes voix. On va poursuivre cette discussion sur peut-être aussi sur ces erreurs de casting qu'a fait Emmanuel Macron en choisissant tel ou tel ministre. On marque une pause, on revient dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Lionel Gougelot.
Retour dans le débat des grandes voix sur le thème de l'islamo-gauchisme que l'on évoquait il y a quelques instants avec nos grandes voix du samedi matin. Gérard Carrérou, on a vu véritable levée de bouclier dans le monde universitaire après les déclarations de la ministre. Elle s'est complètement discréditée vis-à-vis du monde universitaire.
Écoutez, pas
certains
du tout.
Demandent sa démission.
Je trouve absolument ahurissant qu'on lui tombe dessus à bras raccourcis. Elle n'a fait que... Alors vous me direz, en politique, il y a les faibles et les plus forts. Elle n'a fait que dire très exactement, répéter très exactement ce qu'avait dit le ministre, estimé par une grande partie de l'opinion, le ministre de l'Éducation, M. Blanquer, il y a quelques semaines.
Sauf qu'à l'époque, elle était contre.
Oui, non mais...
Elle avait dit que ça n'existait pas.
Non, mais parce qu'à l'époque, elle était dans le déni, sans doute que Blanquer lui a dit bah, « Vous avez tort, madame la ministre ». Et du coup, mais je veux dire, lui tomber dessus, c'est en fait discréditer la personne, c'est en même temps essayer de discréditer le concept. Or, le concept, et Charles a eu raison de le dire, le concept d'islamo-gauchisme, ça existe. Ça existe et ça existe fortement. C'est une idéologie, et c'est difficile à combattre, parce qu'une idéologie, c'est toujours difficile et compliqué à combattre. Mais cette idéologie s'est installée à travers l'université, dans beaucoup d'universités. Il y a des manifestations d'intolérance permanentes. Il y a des manifestations... Alors, en deux mots, je ne veux pas être long, en deux mots, qu'est-ce que c'est que l'islamo-gauchisme ? C'est l'idée de croire qu'aujourd'hui, l'islam, c'est la religion des opprimés dans la planète.
Et des pauvres.
Les pauvres et les opprimés, c'est l'islam. Deuxièmement, l'islam, c'est un potentiel révolutionnaire d'un milliard d'individus, donc considérable. Troisièmement, tous ceux qui veulent faire la révolution dans le monde et virer les capitalistes, et virer les impérialistes, et virer la France, et virer les Américains, etc., tout cela doivent s'allier contre. C'est ça l'islamo-gauchisme. Si vous croyez que ce n'est pas répandu, c'est répandu partout à gauche. Alors effectivement, le dénoncer, elle a été, là où elle a été maladroite, je dirais là d'un mot, elle a été maladroite parce que c'était demander au CNRS de faire la police là-dedans, c'était comme demander au KGB de faire la police au bureau politique du Parti communiste.
Catherine, et ensuite Michel Cotta. Catherine.
Oui, surtout que le CNRS est un prescripteur de ces idéologies, parce que son patron, Antoine Petit, pour lui, la race et la grille de lecture du monde qui s'intègre dans celle du genre, d'ailleurs le CNRS pratique l'écriture inclusive de façon systématique, parce que quand Gérard, tu dis ce qu'est l'islamo-gauchisme, ça c'est vrai, d'ailleurs quand Jean-Luc Mélenchon est en tête de la manif du CCIF qui est depuis dissous, c'est parce qu'il sait très bien que, voilà, c'est pour lui, l'immigré musulman est le substitut de l'ancienne figure du prolétaire. Ce sont ses ouvriers à lui. Et c'est ça, sa révolution avec ces gens-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme dans l'université, c'est un dérivé de cet islamisme gauchiste-là. C'est tout ce qui touche les idéologies indigénistes, racialistes, décoloniales, qui infusent la haine et le rejet de la France auprès des étudiants.
Et dont certains disent que ça vient des États-Unis.
Et oui. ça vient des États-Unis.
Il y a 10 ans, des universités.
Et ça vient des États-Unis où, à cause de ça, l'université est en péril. C'est-à-dire qu'il y a des exclusions de professeurs qui ne pensent pas comme eux. C'est vraiment. Mais c'est une dictature de cette idéologie.
Alors, petite question, Michel Cotta, dites-moi si je me trompe, mais on n'a pas entendu beaucoup de messages de soutien de la part de l'exécutif vis-à-vis de la ministre.
Non, parce que ça a été maladroitement fait. Ouais. Je pense que ce n'est pas à la ministre de l'éducation universitaire de dire qu'il faut trier entre les enquêtes militantes et les enquêtes qui ne le sont pas. Ça, dans la formulation, on ne dit pas ça, effectivement, à une communauté de chercheurs et à une communauté de professeurs. Bon. Mais sur le fond, qu'est-ce que c'est ? Il y a quand même plusieurs degrés de l'islamo-gauchisme. Il y a effectivement le degré que vient de dire Catherine, mais il y a aussi une sorte d'islamo-gauchisme chez les étudiants. N'oubliez pas qu'en 68, il y avait 500 000 étudiants, maintenant il y en a plus de 2 millions. Et tout ça fait une espèce de nébuleuse autour de la révolution, mettons tout par terre. Et là, il y a une agence objective, effectivement, de certains islamistes qui se trouvent maltraités et des étudiants qui voudraient faire la révolution. Donc ça, c'est et puis, il y a un truc encore plus important, je trouve un élément encore plus important, c'est l'intolérance. Et ça, alors, ça a un peu toujours existé, parce que moi, je me rappelle quand Raymond Aron, vous rappelez, a été empêché de parler à la Sorbonne ou à Normal.
C'était les marxistes.
Donc, à la rigueur, ça a toujours existé. Mais moi, ce qui me paraît quand même important, c'est de voir que dans le même temps, François Hollande, on déchire ses papiers.
Il n'est pas un grand théoricien de la pensée.
Parce que pour social-démocratie, le procès qu'il lui a fait, c'est la social-démocratie. Même chose. Sophia, la femme de Lionel Jospin, oui. Elle est contre la PMA, elle n'a pas le droit de parler. Finkielkraut, on ne sait pas ce qu'il va dire, mais à tout hasard, moi, ce qui me paraît encore plus dangereux que cet islamo-gauchisme, mais ça se partage, ça se relie, c'est l'intolérance des élèves et d'une partie des professeurs. C'est vrai.
Si je peux dire un mot, Michel, je crois que tu as vécu, et nous avons vécu tous, ça, dans les campus des années 60, le Parti communiste français tenait, on peut dire idéologiquement, tenait les universités. Moi, je n'ai eu tout au long de ma vie, à l'école, puis à l'université, que des professeurs d'histoire communistes, marxistes et communistes. On n'a eu que ça. Et ils tenaient idéologiquement. Les semaines de la pensée marxiste à Paris, il y avait 10 000 personnes qui venaient et il n'y avait pas de contradiction. On a vécu ça. Aujourd'hui, l'islamo-gauchisme, c'est une tentative hégémonique de ce même type. Simplement, il n'y a plus de parti communiste, alors beaucoup de prolétaires, alors on remplace les prolétaires et le parti communiste par les troupes islamistes.
C'est devenu le politiquement correct à l'université, mais il faut quand même dire que la ministre, dans sa loi sur la recherche en décembre, avait glissé d'ailleurs une manœuvre qui a d'ailleurs fort déplu à l'université, c'est que hier encore, le Conseil national des universités gérait les carrières des enseignants. Et y participaient tous ces gens qui sont pour ces théories-là. Et donc, comme ils étaient cohérents et unis entre eux, ils décidaient de qui devait être promu, qui devait entrer, et ils étaient en train d'acquérir un pouvoir formidable. Eh bien là, dans la loi, maintenant, ce sont les présidents d'université qui pourront recruter qui ils veulent. Donc, elle a essayé de lutter. On n'en a pas parlé. Et elle l'a mal vendu. Elle n'a pas osé. Et là, sa bêtise, je dirais, c'est de vouloir mettre le CNRS pour faire la police de l'université. C'est idiot. Moi, je pense qu'elle aurait dû être soutenue, je pense comme toi, Gérard.
On va avancer, si vous le voulez bien, les grandes voies avec cette autre polémique qui semble avoir agacé le gouvernement cette semaine. C'est l'affaire des contrôles d'identité de la défenseur des droits Claire Hédon qui semblait vouloir supprimer dans certaines zones, dans certains quartiers difficiles, ces contrôles d'identité pour éviter les contrôles au faciès. Alors, elle s'est fait recadrer, on l'a entendu en introduction, par Jean Castex. Comment vous analysez cette sortie, les grandes voix, Charles Villeneuve, dans le contexte de violence que subissent les policiers dans certains quartiers, là aussi, c'est une fausse note ?
Bien sûr, enfin, elle s'est discréditée. Et puis, du même coup, elle a discrédité la fonction, qui est une fonction de
toute façon,
mais qui quand même est une bonne fonction, quand elle est gérée différemment. Elle a d'ailleurs, antenne...
Rappelle que Jacques Toubon...
Laissez finir Charles, s'il vous plaît.
Oui, non mais sur cette antenne, elle a rétro-pédalé.
Oui, on l'a entendu avec
Sonia Mabrouk. Elle a complètement rétro-pédalé. Et puis le Premier ministre, d'ailleurs, vous avez passé tout à l'heure l'extrait, a remis en place. Mais ce qu'il y a de vrai, de toute façon, c'est que sa sortie discrédite la fonction, indéniablement. Elle a essayé de remettre en place, si vous voulez, le bon sens. Il est bien évident que, d'ailleurs, il se tient à l'heure actuelle, jusqu'en mai, le Beauvau de la sécurité, notamment au Sénat. Bon, eh bien, on verra ce que va pondre le Beauvau de la sécurité. Si ça tient, si vous voulez, de la communication ou si ça tient de décisions réelles, notamment par rapport à la police. Parce qu'il faut bien se rendre compte que quand vous discutez avec les syndicalistes, il ne faut pas oublier qu'on co-gère au ministère de l'Intérieur la police avec les syndicats. On ne gère pas simplement au niveau du ministre. Il est bien obligé de tenir compte de la puissance des syndicats. Eh bien, la police est dans un état moral, mais vraiment à plat, complètement à plat. Et je la connais bien, je m'en suis occupé notamment ici sur Europe pendant des années, et aussi bien que de la magistrature. Eh bien, aujourd'hui, justement, la police, à l'inverse de la gendarmerie, a un besoin d'éducation, de formation extrêmement solide.
Bon, cela dit, compte tenu de la mise au point de Jean Castex, le débat est clos, Michel Cotta.
Oui, mais c'est intéressant de revenir sur ce qu'elle a dit. Alors, Claire Hédon, elle est journaliste, c'est une de nos consoeurs. Elle est journaliste et elle a été la présidente d'ATD Quart Monde après Geneviève de Gaulle. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment connu pour son engagement humanitaire. Oui. Et effectivement, elle a transposé son engagement humanitaire d'une manière surprenante sur la suppression des forces de police dans les banlieues.
Des contrôles de police.
Oui, les contrôles de police en mélangeant au fond sa vocation humanitaire, on peut comprendre, et puis son intervention.
Donc tu en déduis que c'est une erreur de casting.
J'en déduis qu'elle est très bien sur l'humanitaire.
Oui, donc elle n'est pas bien là où elle est. Donc faut...
Non, mais après ce qui s'est passé à Poissy, avec Tullet de toute façon, on voit très bien que la police a besoin d'autres décisions.
Évidemment.
Non, mais surtout, on a dit que pour Frédéric Vidal, elle avait fait cette déclaration à contresens. Là, on peut dire aussi que pour Claire Hédon, c'est quand même une déclaration à contresens.
10h, 11h, les grandes voix d'Europe 1.